Bien, on va reprendre là où on en était la dernière fois, parce qu'on n'a pas pu terminer. Oui. Donc, un petit rappel pour resituer le texte. Tout va bien pour David. Il a eu l'onction royale pour tout Israël. Donc, voilà, 15 ans, en gros, hein, peut-être même plus, après que Dieu lui ait donné l'onction au travers du prophète Samuel. Donc, pendant cette période, il a dû être rudement patient. Moi, je suis effarée quand je pense au nombre d'années qu'il a vécu en sachant ça et en ne voyant rien venir. Ça, c'est épouvantable. Il n'avait rien demandé à personne. Le prophète est venu, lui a donné l'onction et après, il n'a eu que des embêtements. Voilà, à part la victoire sur Goliath. Pour le reste, ça a été vraiment pénible. Et bon, comme quoi, il ne faut pas se décourager. Quand Dieu promet quelque chose, il tient ses promesses. Et donc voilà, il est arrivé enfin à ce que Dieu avait promis, donc c'est super. Même le roi de Tyr lui a envoyé des matériaux pour son palais. Il est reconnu donc par l'étranger aussi, ce qui est très important quand même pour un roi. Le peuple d'Israël est enfin réuni puisqu'il a pris la ville de Jérusalem, qui à l'époque était aux mains de païens qui s'appelaient les Jébusiens. Et pourtant, ces gens-là s'étaient bien moqués de lui, mais il a réussi à prendre la ville et il en a fait sa capitale. Et ce qui est d'ailleurs incroyable, on en parlera au cours de l'histoire, c'est qu'elle a été donc à peu près la capitale 1000 ans avant Jésus-Christ. Bon an, mal an, avec quelques épisodes un peu difficiles, elle est restée la capitale jusqu'à l'an 70. Après, avec quelques trous, hein, mais bon. Donc on va dire grosso modo, 1000 ans, elle a été la capitale. Et puis plus rien, tout a été détruit en l'an 70, les Romains ont tout rasé. Et là on est dans l'histoire, toute pure, et ce n'est qu'en 1948 qu'ils ont retrouvé leur pays et leur capitale. Je ne pense pas qu'on connaisse de pays qui ont vécu ça, parce qu'ils n'ont pas perdu leur identité. Ils n'ont pas perdu leur foi, majoritairement. Et malgré les persécutions innombrables qu'ils ont vécues en Espagne, en Angleterre, dans les siècles qui sont passés, le jour où Dieu l'a décidé. Donc, si on enlève 70 ans, ça fait un petit peu moins de 1000 ans, de 1900 ans. Dieu les a ramenés dans leur pays. C'est fou, hein. C'est fou. Et je sais que c'est ce qui a touché André quand il avait 20 ans, qu'il a réalisé que Dieu est présent dans l'histoire. Le problème avec Dieu, c'est que le temps ne compte pas autant que pour nous. Et les Juifs avaient l'habitude de se saluer en disant « l'année prochaine à Jérusalem ». Et ils ont fait ça pendant des siècles. La foi était là. C'était peut-être pour certains, c'était une formule qu'ils répétaient. Ils se saluaient « shalom, l'année prochaine à Jérusalem ». Et ça s'est réalisé en 1948. Ça doit nous faire prêter attention à la Bible et aux promesses de Dieu. Dieu est aussi un Dieu de l'histoire. Et c'est ce qu'on voit avec David. Et on peut apprendre des tas de choses de cette histoire qui a eu lieu il y a 3000 ans. Le cœur de l'homme n'a pas changé d'un pouce. Il est aussi difficile. Mais on a des tas de choses à apprendre du roi David. Voilà, donc pour lui, tout va bien. Tout va bien, il a sa capitale, il est reconnu à l'extérieur. Voilà, il va construire son palais. Et puis, on va lire. Au moment où tout va bien, ça se gâte. Et ça, c'est quand même un peu dur à prendre. Quand tout va bien pour nous et qu'on a un gros pépin comme ça, c'est un truc à vous faire perdre la foi, comme on dirait. Et là, David, moi, m'a toujours étonnée. Je me souviens quand j'ai lu ce texte par moi-même pour la première fois, je me souvenais que mon pasteur en avait parlé. Mais bon, c'était un petit peu confus dans ma tête. Mais quand la première fois j'ai relu ce texte, je l'ai regardé, j'ai dit, mais comment il a pu faire ça? Comment il a pu faire ça? On va le lire ensemble. Alors c'est On est à 2 Samuel chapitre 5 verset 17. 2 Samuel 5, 17. Quand les Philistins, donc c'était une peuplade qui avait des villes sur ce qui est aujourd'hui d'ailleurs l'État palestinien, Gaza, etc. Tout s'appelle toujours Gaza d'ailleurs. Voilà, les Philistins avaient pris un certain nombre de villes, 5 je crois. Et de là, ils rayonnaient et ils contrôlaient un peu le pays d'Israël. Quand les Philistins apprirent qu'on avait conféré l'onction à David pour qu'il soit roi sur Israël, ils montèrent tous à la recherche de David. Quand David l'apprit, il descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent, se déployèrent dans la vallée des Réphaïtes. David interrogea le Seigneur : « Dois-je attaquer les Philistins ? Me les livreras-tu ? » Le Seigneur dit à David : « Vas-y, car je te livrerai les Philistins. » David arriva à Baal-Pératsim où il les battit. Puis il dit : « Le Seigneur a ouvert une brèche devant moi dans les rangs de mes ennemis, comme une brèche ouverte par les eaux. » C'est pourquoi on a appelé ce lieu du nom de Baal-Pératsim, maître des brèches. Ils abandonnèrent là leurs idoles, donc les Philistins, et David et ses hommes les emportèrent. Alors dans les chroniques, ils disent ils les brûlèrent, parce qu'on a à peu près le même texte dans le livre des chroniques. Les Philistins partirent de nouveau à l'attaque et se déployèrent dans la vallée des Réphaïtes. David interrogea le Seigneur. Aha. Qui lui dit, tu n'attaqueras pas, prends-les à revers et tu arriveras sur eux en face des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans la cime des mûriers, alors dépêche-toi, car c'est le Seigneur qui se met en campagne devant toi pour battre les troupes des Philistins. David fit ce que le Seigneur lui avait ordonné, il battit les Philistins depuis Geba jusqu'à Gézer. Vous voyez, c'est très sobre, on est loin de la mythologie et des batailles d'Hercule, et etc. Vraiment loin, c'est un texte très sobre, mais qui dit énormément, énormément de choses et... Quand je l'ai relu pour moi-même, je me suis dit, mais c'est complètement fou cette histoire. Comment est-ce que David a pu à chaque fois réinterroger le Seigneur ? On va voir un petit peu pourquoi et comment. Alors, pourquoi est-ce que les Philistins attaquent dans cette période où tout allait bien ? Eh bien, c'est logique, hein. Ils attaquent après la prise. Alors, on pense que c'est plutôt après la prise de Jérusalem, comme dans ce texte. Certains théologiens doutaient un petit peu, mais il semble que c'est probablement après la prise de Jérusalem. Et c'est un petit peu logique parce qu'il a eu l'onction royale sur Juda d'abord. Soit le Philistin, ça ne les dérangeait pas trop. Il était un petit chef de tribu, là, dans le sud du pays. So what, pas de souci. Mais après, il a l'onction royale sur tout Israël. Ouh, alors là, ça les inquiète davantage, parce que c'est plus une petite tribu dans le sud, c'est 12 tribus, du nord au sud. Là, ça commence à être un vrai royaume, ça leur plaît pas trop. Et parce que eux, ils passaient leur temps à essayer de contrôler un peu une grande partie d'Israël. Et après la mort de Saül, le roi précédent, ils avaient pris le pouvoir hein, sur beaucoup des régions qui appartenaient à Israël. Donc là, ça les inquiète. Et d'ailleurs, ça explique aussi pourquoi la Bible dit que David a été mis au courant quand David l'a pris. Bah oui, parce qu'il a été mis au courant des projets de guerre, parce que les Philistins contrôlaient un peu tout. Et on ne peut pas préparer une guerre de cette ampleur sans que les gens soient au courant. Voilà, donc il a su très vite qu'il préparait quelque chose. Et puis, le troisième point, c'était la prise de Jérusalem, parce que là, ça devient la capitale. On a un pays uni, 12 tribus autour de David. Et là, ça va les mettre en difficulté. Ils connaissent David. Il a été un peu réfugié chez eux. Ils savent que c'est un excellent chef de guerre et ça ne va pas bien se passer pour eux. Et comme ce sont des gens qui passent leur temps à attaquer, faire des razzias, etc., ça va être problématique avec David. Alors en plus, ils vont attaquer dans une région qui est proche de la nouvelle capitale de Jérusalem. Alors, tant qu'il y avait deux rois dans les années précédentes hein, et deux chefs d'armée, donc on avait d'un côté David avec Joab, son chef d'armée, et de l'autre côté Ish-bosheth, fils de Saül, qui était décédé avec son chef d'armée qui s'appelait Abner, bon, il se disait, il n'y a pas trop de danger, le pays est divisé. Et ça, c'est important à remarquer. La division du peuple de Dieu, que ce soit Israël, que ce soit même au niveau de la cellule de base de la société, de la famille, de l'église locale, de l'église universelle, la division, c'est la meilleure arme de l'ennemi. S'il veut être tranquille, il suffit de diviser. D'ailleurs, on a gardé ce proverbe hein, en France, diviser pour régner. Hein, au boulot, vous, tous ceux qui travaillent dans des bureaux savent que plus facilement dans les bureaux qu'ailleurs d'ailleurs, mais bah, si quelqu'un veut prendre de la place, il va diviser les autres. C'est une technique toute simple et efficace. Et les enfants de Dieu, quand ils sont divisés, ils perdent leur crédibilité, ils perdent leur force. On dit bien d'ailleurs, l'union fait la force. Et ils perdent leur efficacité. Donc là, jusqu'à présent, ils étaient divisés. Les Philistins, ils n'avaient pas trop besoin de s'en occuper. Et je me souviens de quelqu'un dans notre église qui avait dit, je crois que c'était Tom Bloomer, en tout cas c'était quelqu'un de Jeunesse en Mission, une église unie et qui est active, qui travaille au service de Dieu, est pratiquement invincible. Mais, voilà, c'est une grosse menace pour l'ennemi. Donc il a deux solutions. Ou il va la diviser, ou il va la rendre passive, oisive. C'est vrai pour une simple famille. Une famille qui reste unie et qui sert le Seigneur avec courage et dévouement va avoir un impact énorme sur la société. Alors, bon, je passe sur tout un tas d'exemples, mais peut-être un exemple qui nous touche, nous, en France, parce que c'est des gens qu'on connaît bien, c'est l'Armée du Salut. C'est une famille qui a commencé. Monsieur et Madame Booth, leurs enfants ont suivi. Et quand je logeais au Palais de la Femme à Paris, il y avait encore des descendants de cette famille qui étaient hyperactifs et des gens qui avaient gardé la vision. Tout simplement, l'Armée du Salut. C'est une famille qui, voyant la détresse dans les bas-fonds de Londres, a décidé de s'en occuper. Et les femmes avaient un ministère très important parce qu'elles aussi allaient dans les rues, etc. Et c'était 19e siècle, hein, avec leur drôle de chapeau. Là, c'était... Voilà. Une famille qui était unie et qui servait le Seigneur. Donc la stratégie de l'ennemi est simple. Il faut diviser les familles, alors que ce soit les familles ou les familles d'église ou l'église universelle. Ou bien alors, il faut les rendre passives, oisives, centrées sur elles-mêmes. Ça marche très bien. Surtout à notre époque, où de plus en plus la pression des médias, la pression des publicités aussi, c'est pense à toi-même. Tu le vaux bien, blablabla, bla bla, vous connaissez tous. Et quand c'est possible, bah les deux, hein, diviser et rendre oisif. Alors là, c'est formidable. Donc les Philistins, ils ont bien compris le système. Ils vont attaquer parce qu'il faut faire quelque chose. Là, ils deviennent dangereux. Israël devient un pays dangereux. David devient un roi dangereux. Voilà pourquoi ils attaquent. Et voilà pourquoi ils attaquent après tant de belles victoires. On pourrait dire maintenant, il est arrivé, David. Waouh, ce dont je rêve toujours, hein. Chemin couvert de pétales de rose, tout va bien. Aïe, non, les Philistins attaquent. Alors, dès qu'il est prévenu, les Philistins montent contre lui. David est prévenu, mais il les voit arriver. Et lui, il va descendre à la forteresse. Alors, quand vous étudiez un texte biblique, vous allez voir que très souvent, les auteurs bibliques aiment bien jouer sur ces antithèses. L'armée monte contre David et David descend. C'est souvent dans le vocabulaire et ça a une valeur symbolique. Quand les hôtes montent avec toute leur force et leur grande armée et se déploient dans la vallée, lui, il descend où ? À la forteresse. C'est-à-dire qu'il va se mettre à l'écart pendant que les autres s'exposent là. Tout le contraire. On pourrait dire, il va convoquer toute son armée, il va foncer. Enfin, c'est ce qui me semblerait évident. Il vient d'avoir des tas de succès militaires. Maintenant, il a l'armée, la sienne, celle de Juda et celle des autres tribus. Non, il a gardé cette habitude devant la difficulté de se mettre à l'écart et d'aller à la forteresse. Et vous vous souvenez du chant qu'on a passé la dernière fois, « Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon refuge dans la détresse, c'est Jésus, mon seul sauveur. » Et je crois que ça nous en dit long. Quand après une belle période, le diable s'amuse à nous attaquer, les circonstances tournent mal, etc., la solution de David est bien la meilleure. Il descend à la forteresse. Première chose, il se met à l'écart. Et c'est une très belle image parce qu'il ne s'est pas appuyé sur ses derniers succès, sur son armée, etc. Maintenant, il avait à la fois l'armée avec Joab et l'ancienne armée de Saül. Il va descendre dans un lieu sûr. Alors, on pense que c'est la caverne d'Adoulam parce que c'est une énorme caverne qui existe encore aujourd'hui et qui n'est pas très loin du champ de bataille d'ailleurs. Pas loin de la vallée où se déploie l'armée des Philistins. Et là, il va consulter l'Éternel. Et ça, j'ai pas pu m'empêcher de penser à ce verset de Matthieu 6:6. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Et vous savez, moi, quand je lis la Bible, je me pose toujours plein de questions. Je me dis, ils avaient cette notion à l'époque de notre petite chambre fermée avec son petit verrou et tout. Peut-être, peut-être, pourquoi pas. Et en fait, j'ai regardé un petit peu, j'ai cherché. Et en fait, dans l'original, il semblerait que ce soit la pièce la plus retirée. Ça peut être une réserve, ça peut être un cellier. Enfin, c'est le nom qu'on donnait à une pièce où on n'allait pas souvent et assez retirée du reste de la maison. Donc, ils ont traduit par chambre, je pense que par équivalence, hein, mais ça m'a plu. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Dieu qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et devant la difficulté, j'arrête de dire, c'est pas souvent ce qu'on fait en premier. Soyons honnêtes. Mais c'est pourtant ce que David a fait. Et vraiment, prenons modèle. Prenons modèle. Et il va consulter Dieu. Il aurait pu rester très frappé par ce qu'il voit et ce qu'il entend. L'avantage de se retirer, c'est qu'il ne regardait plus cette armée. Vous savez, on dit toujours, quand on conduit, je vous l'ai déjà dit souvent, on va aller vers l'endroit qu'on regarde. Hein, je donne toujours cet exemple, parce que ça m'est arrivé. Mon moniteur disait toujours ça, mon moniteur d'auto-école. Et puis, un jour, j'ai doublé un gros camion. Et comme il venait d'Italie, bah, j'étais curieuse, je voulais voir d'où il venait, ce qu'il faisait. J'ai essayé de lire ce qui était sur le côté du camion. Et je me suis rapprochée dangereusement du camion. Je me dis, oh, mais c'est vrai ce qu'il disait à mon moniteur. Quand on regarde, on va dans la direction de ce qu'on regarde. Et il n'a pas regardé l'armée. Il est allé dans sa forteresse. Il est allé rencontrer Dieu. Et je pense que s'il avait regardé l'armée, il aurait peut-être eu peur et il aurait pris des mauvaises décisions. C'est ça le problème. La peur est mauvaise conseillère. Alors nous, consulter Dieu, bah oui. On a sa parole. Alors évidemment, la façon dont il consultait Dieu à cette époque était très différente. Il y avait le grand prêtre Abiathar qui était là. Il y avait les Ourim et les Toumim. On ne sait pas trop comment ça fonctionnait. Donc on ne va pas rentrer là-dedans. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a choisi la bonne solution et que les conseils que Dieu lui a donnés étaient les bons. Voilà. Maintenant, c'était assez compliqué à cette époque-là. Je ne rentrerai pas dans ces détails-là puisqu'on ne sait pas grand-chose. En tout cas, Dieu parle au cœur. Et nous, pour consulter Dieu, bah déjà, on a sa parole. On a la Bible. On a son esprit qui est en nous, qui doit toujours être en accord, évidemment, avec la parole de Dieu. Hein. Si vous avez l'impression que Dieu vous dit d'aller voler votre voisin, c'est sûr que ça ne sera pas en accord avec la parole de Dieu. Donc, il y a toujours cette vérification. Et quand il nous est difficile, et là, je crois qu'on a tous ce problème, de départager entre notre pensée et la pensée de Dieu, surtout si nos sentiments sont impliqués, c'est difficile. Alors là, je crois que Dieu a pourvu aussi aux les uns les autres. Je pense qu'on a un peu parlé du les uns les autres et qu'on peut s'adresser à recevoir les conseils de gens qui mettent en pratique la parole de Dieu, évidemment. Sinon, ce n'est pas des conseils de valeur, mais des gens qui mettent en pratique la parole de Dieu dans leur vie et qui vont pouvoir nous aider à faire la part des choses entre nos sentiments, notre pensée et ce que Dieu nous demande. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a des fois, c'est difficile. Donc, on peut aussi savoir ce que Dieu a à nous dire. Alors, il va poser une question à Dieu, et sa question aussi me semble un peu spéciale. Dois-je attaquer les Philistins ? Ben, écoutez, ils sont là, on va pas les prendre en photo, hein, et il y a quelque chose à faire quand même. Dois-je attaquer les Philistins ? Eh bien, il pose la question. Et puis, la deuxième question, me les livreras-tu ? Moi, j'aurais pas posé cette question-là, honnêtement, j'aurais dit, est-ce que je vais gagner ? Est-ce que tu es sûr que je vais gagner ? Parce que sinon, moi, je ne m'aventure pas. Voilà. Alors, ça aurait pu paraître évident à un chef de guerre comme David d'attaquer. Hein. En plus, il venait de recevoir l'accomplissement de ses promesses. Il était dans sa lancée. Mais alors, qu'est-ce que David savait ? Pourquoi il posait ces questions de cette façon-là ? Moi, je pense, j'ai réfléchi. David savait, et par la foi et par son expérience, que la pensée et la volonté de Dieu, c'est bien plus important que la force d'une armée. Ça, c'est... Alors là, je pense que ceux qui connaissent un peu les psaumes, vous avez tout de suite pensé à des tas de versets. Hein, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, sur leurs chevaux, etc., etc. Vous connaissez tous ces versets. Et il le dit, mais il le pratique. Il l'a dit dans les psaumes, mais il le pratique. Il sait que la pensée de Dieu est plus importante. David savait par expérience aussi que Dieu n'agit pas toujours de la même façon. Ah, c'est ça que j'aime en Dieu. C'est pas une machine automatique. Il va souvent agir de façon... Il va nous surprendre. Et il a un humour formidable. Il sait aussi que les Philistins auraient pu être appelés en urgence sur un autre champ de bataille. C'est ce qui est arrivé avec Saül, rappelez-vous. Il sait qu'un orage, la pluie, une tempête auraient pu les disperser. C'est ce qui était arrivé avec Déborah. Ils auraient pu se battre entre eux, Gédéon, ou être attaqués par un autre ennemi, etc. Si vous lisez tout ce qui s'est passé avant David, il avait tous ces exemples en tête, parce qu'à l'époque, il connaissait le Pentateuque, et il connaissait les histoires des juges, qui n'étaient pas si vieilles que ça pour eux. Alors, il savait que son armée était forte et bien entraînée, mais il savait aussi que Saül avait été battu par ces mêmes Philistins. Et était tué, ainsi que ses fils. Il était persuadé que seule la volonté de Dieu était déterminante. Et il y a quelque chose qui m'a frappée aussi, c'est que le plan de Dieu, il était conscient, David, que le plan de Dieu était plus large que sa petite personne. Oh, alors là, nous, au XXIe siècle, c'est dur à prendre ça. C'est-à-dire que Dieu voit David comme le roi de son peuple, certes, un jeune homme qui est devenu un soldat, qui est devenu, voilà, tout ce qu'on sait, un roi. Mais Dieu avait une image plus forte et plus grande pour David. Il allait être le grand roi d'Israël, encore aujourd'hui, hein. L'étoile de David, voilà, le drapeau israélien, etc. C'est resté, hein. Dieu savait qu'il allait rester une image d'autre chose. L'image du Messie, du vrai grand roi, qui lui n'aurait pas de défaut, qui serait parfait. Et donc, en installant David comme roi, Dieu ne pensait pas qu'au petit David berger qui a fait son chemin, qui a été obéissant et qui a souffert. Non, il pensait aussi à tout son peuple et à la venue du Messie, qui serait appelé d'ailleurs par les Juifs au temps de Jésus comme le fils de David, c'est-à-dire celui qui a hérité de cette royauté. Donc Dieu voit beaucoup plus loin. Il voit aussi l'intérêt de son peuple d'Israël qui a été choisi, rappelez-vous, pour être une lumière parmi les nations. Ouf, comme nous, ils ont beaucoup et souvent échoué, mais il était choisi pour ça. Dieu se rappelle de l'appel d'Abraham jusqu'à la venue de Jésus où le Sauveur règne sur l'histoire de l'humanité. Et tout ça, vous voyez, Dieu a une vue beaucoup plus large que notre petite personne. Alors c'est un peu dur à prendre parce qu'on est habitué à ce que Jésus, mon Sauveur, mon Rédempteur, moi et Jésus, Jésus et moi, c'est bien. Mais c'est aussi, et ça fait partie des paradoxes de la Bible, c'est aussi celui qui voit loin, qui voit l'avenir de ma famille, qui voit l'avenir de mon Église, qui voit l'avenir de mon travail dans la société. Il voit beaucoup plus large, pas que notre petite personne. Et ça, il ne faut pas l'oublier parce que notre société nous pousse à penser à nous, à nous, à nous. Il y a un verset de la Bible qui dit « moi, moi et rien que moi ». On est bien dans cette époque-là. On perd le sens du commun. C'est la société qui nous amène ça aussi. Donc, il faut penser que Dieu est le Dieu de tous et qu'en nous bénissant, il bénit notre entourage, etc. Et David est parfaitement conscient de ça. On est reliés les uns aux autres. Il est relié à sa nation, il est relié à ce qui va se passer après la venue du Messie, etc. Vous voyez, Dieu a une vue beaucoup plus large que nous, dans le temps et dans l'espace. Heureusement. De plus, David est conscient que les victoires qu'il avait remportées jusque-là avaient été accordées par Dieu, pour David, mais surtout pour son peuple, et pour la gloire de Dieu. Et quand on dit gloire, c'est sa réputation, c'est son nom. Par exemple, la victoire sur Jérusalem, franchement, ce n'est pas un hasard. Hein ? Choix de Dieu pour Israël. Quand vous pensez que 3000 ans après, elle redevient la capitale de l'État d'Israël, il y a quand même quelque chose de bizarre. Hasard ? Faut beaucoup de foi pour croire à ce hasard. Par ailleurs, pour Jérusalem, Dieu avait détesté les moqueries et la présomption des Jébusiens qui s'étaient moqués, wow, quand même la ville serait défendue par des aveugles et des boiteux, voilà. Elle serait imprenable. Le peuple de Dieu peut faire ce genre d'erreur parfois, mais Dieu a des plans. David savait que l'essentiel, c'était l'opinion de Dieu. Et que toute victoire dépendait d'abord de sa volonté. Alors il ne demande pas « est-ce que je vais avoir la victoire ?» mais « me les livreras-tu, toi ?» Ben, finalement, enfin, réfléchissons un petit peu, hein, les guerres, c'était du corps à corps dans ce temps-là. On ne se battait pas pour rire, on ne se battait pas sur un ordinateur. C'était terrible. Il n'y avait même pas la Croix-Rouge, il n'y avait même pas tout ce qu'il y a eu après hein, pour prendre soin des gens sur les champs de bataille. Les gens crevaient littéralement sur les champs de bataille. Enfin, c'était horrible ces batailles. Horrible. Et être capable de dire, en sachant tout ça, que c'est Dieu qui décide de la bataille, c'est Dieu qui livre ou non les ennemis, waouh, moi j'admire. Et effectivement, on retrouve ça dans les psaumes. Psaume 118, verset 16, « La main de l'Éternel assure la victoire. » Deutéronome 1,30, « L'Éternel lui-même combattra pour vous. » Deutéronome 20,15, « Ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » Et il y en a des tas de textes comme ça dans la Bible. Donc, il sait que ça se passe comme ça. Dieu l'a sorti d'affaire de façon incroyable, des tas de fois. En somme, David a une vue juste de la bataille. Dieu est en contrôle. Et si on est convaincu de ça devant nos difficultés, ça change beaucoup de choses. Déjà, ça enlève un peu la peur. Et puis, ça nous rassure. Dieu est en contrôle. Et c'est lui qui décide. Il ne faut pas croire que c'est nos ennemis, nos problèmes, nos circonstances, la maladie, etc., qui décident. Ce n'est pas notre armée, sa force et sa vaillance, ou même le nombre. Ça, c'est fou d'ailleurs, hein. Combien de fois dans la Bible on voit des batailles avec des nombres extrêmement inégaux et c'est le plus petit qui gagne parce que Dieu est avec lui. Alors que parfois ils ont une armée formidable et ils perdent parce qu'ils ont carrément rejeté Dieu. Donc il faut toujours se rappeler que Dieu tient notre ennemi en bride et David le savait. Alors bien sûr parfois vous allez me dire oui mais bon il y a des fois on passe par des moments où il demande difficile, oui. Pourquoi Dieu se sert parfois de notre ennemi ? Même s'il le tient en bride, de nos ennemis. Je ne parle pas d'ennemis physiques, hein, que ce soit les circonstances, la pandémie, le chômage. C'est quand même des ennemis concrets ou plus abstraits. D'abord, Dieu s'en sert pour nous faire grandir. Alors ça, j'aime pas dire ça, parce que je trouve ça terrible. Mais c'est la vérité, une vérité que personne n'aime, j'imagine. Hein, parce que bon, les difficultés, on s'en passerait. Mais il s'en sert pour nous faire grandir. Pour nous apprendre à marcher par la foi et par l'esprit, et pas uniquement par la vue. Ça aussi, c'est pas facile. Ça non plus, j'aime pas trop. Mais c'est la vérité. Il s'en sert pour nous corriger. Alors là, on aime encore moins. Mais les difficultés de la vie nous corrigent de pas mal de choses. Et j'en veux pour preuve, j'ai souvent fait des comparaisons entre des familles très nombreuses, 10, 12 enfants, et puis des toutes petites familles, un ou deux enfants. Et souvent, c'est pas toujours vrai, mais très souvent, les caractères des enfants de ces grandes familles sont beaucoup plus souples et beaucoup plus adaptés dans des familles de 10-12 que dans des familles de 1 ou 2. Bah parce qu'ils ont dû se frotter et ils ont appris. C'est tout bête, hein, mais ça marche aussi avec le Seigneur. Les difficultés, quelquefois, il les laisse pour nous corriger. Et aussi pour nous pousser à la repentance. Alors encore une fois, la repentance, ce n'est pas faire la liste de tous nos péchés au confessionnal. C'est revenir vers le Seigneur, remettre notre vie sur des rails, sur les bons rails, revenir vers ce qu'il nous demande et non pas sur ce que je veux. Voilà, hein, c'est ça l'esprit de repentance. C'est pas une liste que vous allez taper sur l'ordinateur avec tous vos péchés. D'abord, peut-être l'ordinateur suffirait pas, non, j'exagère. Mais c'est un retour vers Dieu, hein, un retour. Je reviens sur tes rails, Seigneur. Je veux remettre mes pendules à l'heure. Toutes ces expressions-là, vous pouvez en trouver d'autres, mais c'est ça. Nous rappeler notre fragilité et notre petitesse. Ah, les épreuves servent à ça. Nous apprendre à dépendre de Dieu, et ça c'est difficile. Et dans tous les cas, c'est lui qui va décider du combat. Alors dans ce cas précis, vous remarquez que l'attention est portée sur Dieu. Pas sur David, pas sur l'armée. Je te livrerai les Philistins, mais tu remporteras la victoire, mais toute l'attention est portée sur Dieu. Me les livreras-tu ? Et non pas, est-ce que je les écraserai ? Est-ce que je les chasserai ? Est-ce que je ? Mais c'est tu, me les livreras-tu ? Et ça m'a frappée. Et c'est pourquoi au verset 20, on a la conclusion normale, il les battit. Mais j'aime ce qu'il dit juste après. Le Seigneur a ouvert une brèche. Mais purée, c'est lui qui s'est battu ? Non mais quand même ! Et il dit, le Seigneur a ouvert une brèche. Parce qu'effectivement, je pense que devant lui, les choses ont dû être plus faciles que prévu. parce que Dieu agit. Et j'aime bien cette image. Il a ouvert une brèche devant moi, dans les rangs de mes ennemis, comme une brèche ouverte par les eaux. Alors, je ne sais pas si vous avez vu récemment sur... je ne sais pas sur quoi c'était d'ailleurs, j'ai vu ça sur ma tablette, un glacier qui a cassé en Inde, je crois. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu les images de l'eau qui a cassé... Enfin, le glacier a cassé un barrage, c'est ça, hein. Et puis, l'eau s'est répandue dans la vallée. Bon, ça a été tragique, il y a eu des morts, etc. Avez-vous vu la force de cette eau? Et c'est à ça que Dieu fait allusion là, dans ce texte. Une brèche ouverte par les eaux, comme une brèche ouverte par les eaux. C'est une image qui me plaît, parce qu'une brèche dans un barrage ou sur un mur, ça représente une force, une poussée de l'eau qui fait tout casser et qui est irrésistible. Et quand Dieu agit en notre faveur, il est irrésistible, comme cette eau. Hein. Il y a d'ailleurs ce verset qui dit que quand l'ennemi attaquera, on peut placer la virgule là, je sais qu'on il y a un petit peu de discussion là-dessus, mais comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en déroute. Et quand j'ai vu ces images, j'ai pensé à ce texte. La force, la puissance de l'eau qui descend dans la vallée, personne ne pouvait rien faire. Même le barrage a cédé. C'est ça la puissance de Dieu. C'est une petite image de ce qu'est la puissance de Dieu. Petite. Je pense que c'est beaucoup plus que ça, mais voilà. Et Dieu seul est capable d'ouvrir des brèches dans des situations auxquelles on est confronté. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre nous qui sont confrontés à des gros soucis dans plein de domaines. Il n'y a que Dieu qui est capable d'ouvrir une brèche dans ces murs-là. Il passe devant, et j'aime aussi beaucoup ce verset qui dit qu'il brise les portes d'airain et les verrous de fer. Combien de fois dans nos vies il a brisé des portes d'airain et des verrous de fer? Et je pense que ce serait intéressant d'avoir d'ailleurs des témoignages de ce qui s'est passé dans nos vies parfois, où Dieu a vraiment fait des choses miraculeuses. Et là encore, David va rendre gloire à Dieu. Il ne s'attribue pas la victoire. Alors là, je trouve que c'est fort. Quand vous avez été couvert de poussière et vous êtes battu comme un lion, etc. Et puis, il ne s'attribue pas la victoire, ni à lui, ni à son armée, ni même, et ça c'est quand même fort, ben moi, écoutez, je suis allée consulter le Seigneur, j'ai écouté Dieu et j'ai obéi. Donc c'est normal que j'ai eu la victoire. Même pas ça. Et ça, il faut qu'on fasse attention, nous chrétiens, parce qu'on peut parfois avoir cette attitude. Ouais, mais attention, hein, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai. Et David n'a même pas cette façon de faire. Il dit, Dieu, le Seigneur a ouvert une brèche pour moi. Comment il est soucieux de la gloire de Dieu. C'est ça, la gloire de Dieu. Bien redonner à Dieu ce qui lui appartient et pas se l'attribuer, même pas à ses mérites spirituels. À la fin de la bataille, le sol est jonché des idoles des Philistins. Comme dans l'histoire de Dagon. Vous vous souvenez Dagon, hein, cette idole qui s'était cassée devant l'arche, deux fois de suite. Et c'est une image aussi qui parle beaucoup, hein. Ça souligne la toute-puissance de Dieu et la vanité totale des idoles. En fait, par terre, c'était plus que des morceaux de bois, de métal, peut-être avec des pierres précieuses, peut-être pour ça qu'ils les ont ramassées, j'en sais rien. Mais en tout cas, tout ça était par terre, ils les ont enlevées. Elles étaient dans la poussière, elles avaient été piétinées. Elles n'avaient servi à rien. Contre Dieu, on ne peut rien faire. La Bible dit, les sortilèges ne peuvent rien contre le peuple de Dieu. Et ils ont eu beau s'adresser à leurs idoles, peut-être faire des sacrifices, peut-être même des sacrifices humains, puisque c'était la mode à l'époque. Ça ne sert à rien. Quand Dieu a décidé, Dieu est plus fort que tout. Et les idoles se sont retrouvées par terre dans la poussière, piétinées, abandonnées. Et c'est une image forte qui nous parle encore aujourd'hui, parce que malgré le fait qu'on vive dans une époque, tout au moins en Europe, assez athée et rationnelle, si vous regardez un peu sur Internet, vous voyez que ça se vend encore bien, les gris-gris, les talismans, les porte-bonheur, en tout genre. Ils ont encore du succès. Et des gens qui refuseraient la seule idée que Dieu puisse exister vont confier leur sort et leur sécurité à un petit morceau de bois décoré ou à un trèfle à quatre feuilles ou je ne sais quoi et vont vous assurer que ça les protège. Bon, attention, est-ce qu'on... On peut avoir encore chez soi des choses comme ça, parce que c'est des souvenirs de la maman, des grands-parents, des amis qui ont offert. Je pense que si David les a pris, le livre des Chroniques qui reprend le même texte dit « ils les brûlèrent ». Et c'est important de ne pas garder ce genre de choses, qui n'a aucun sens devant Dieu et qui même a plutôt néfaste, parce que ce n'est pas là-dedans qu'on va mettre notre confiance. Les hommes de David les ramassent et les brûlent, suivant le texte des Chroniques. Pas de compromis avec les idoles de l'ennemi, même si elles sont jolies, même si elles sont en ivoire ou je ne sais quoi. Et c'est aussi là, ils vivent aussi une victoire spirituelle. Moi, je suis étonnée qu'ils n'aient pas été tentés de les garder. Ils ont pris les idoles. Bon, il faut dire qu'ils avaient compris que Dieu, c'est Dieu qui leur avait donné la victoire et que ces machins-là n'avaient pas du tout aidé les Philistins. Je crois que si nous, chrétiens, dans ces temps difficiles, on ne descend pas dans notre forteresse pour écouter la réponse du Seigneur, et si on n'obéit pas à ce qu'il nous dit, si on ne lui rend pas gloire à lui seul, sans s'attribuer le succès de nos prières, on ne verra pas beaucoup de changements chez les non-chrétiens. Par contre, si on se réfugie dans notre forteresse, si on s'attend à Dieu, si on lui obéit, je crois que les non-chrétiens verront l'inutilité de leurs idoles, la vanité de leurs idoles, et ils les laisseront par terre. Pour moi, c'est une bonne image. Si nous, on fait notre part de chrétiens, si on vit notre vie vraiment dans cette repentance, ce retour à Dieu, cette soumission à Dieu, comme David, je crois qu'ils verront l'inutilité de leurs idoles. Idoles modernes, bien sûr, on les connaît. Ils verront que rien ne vaut la puissance du Dieu vivant. Et d'ailleurs, c'était le cas de nos missionnaires. Moi, quand j'étais petite, je me souviens, c'était d'ailleurs les parents et les grands-parents de Madame Friedman, que vous avez tous plus ou moins connus, qui venaient régulièrement dans mon église et qui avaient raconté à plusieurs reprises comment des sorciers africains réputés, en voyant la puissance de Dieu, avaient brûlé leurs idoles, avaient brûlé leur gris-gris, tous leurs trucs, parce qu'ils avaient compris, leur cœur était ouvert à Dieu, et ils avaient compris qu'il n'y avait rien à voir entre les idoles et la puissance du Dieu vivant. Et ça, c'était des témoignages qu'on entendait très très souvent. Et ils n'étaient pas obligés de le faire, ils l'avaient fait parce que dans leur cœur, ils avaient compris qui était Dieu. Alors là où pour moi les choses auraient risqué de mal tourner, c'est la deuxième attaque. Vous avez vu, si on reprend le texte, les Philistins partirent de nouveau à l'attaque et se déployèrent. Non. Alors ils se sont fait écrabouiller et ils recommencent. Bizarre, ils ont perdu toutes leurs idoles. Enfin, ah, parfois l'ennemi est tenace. Hein. Et là, ça aurait pu mal tourner parce que franchement, moi, j'aurais pas fait ce que David avait fait. Honnêtement. Bah oui. Je me serais dit, voilà, ce sont les mêmes ennemis au même endroit. La dernière fois, j'ai eu la victoire. Dieu m'a dit d'attaquer. Bah, Dieu, il est le même. Hein. Hier, aujourd'hui, éternellement. J'attaque. Eh bien non. Et ça, c'est un texte, je me souviens, quand je l'ai lu la première fois pour moi-même, ça m'a frappé. Mais ce texte m'a frappé. Waouh ! Mais David, comment il a fait pour ne pas tomber dans le piège ? Il aurait pu d'abord perdre courage, se poser des questions, nos fameux pourquoi. Hein. Pourquoi ils sont de nouveau là alors qu'on a vu la victoire? Pourquoi, Seigneur, tu permets que... Je croyais que la victoire était acquise. Moi, je te faisais confiance. Bon, hein, on a tous un peu ces réflexes. Enfin, moi, en tout cas. Et mêmes ennemis, même lieu, même danger, même armée d'Israël. David aurait pu aussi être très logique, rempli de sagesse humaine. Même problème, même solution. On ne change pas une équipe qui gagne. Dieu ne m'a pas abandonné, donc je vais faire la même chose que la fois dernière. Et moi, j'admire son attitude. Comment est-ce qu'il va rester ferme et pourquoi est-ce qu'il interroge à nouveau le Seigneur? Eh bien, je crois que David, dans ses années de fuite devant Saül, il avait appris à dépendre du Seigneur et à ne pas s'appuyer ni sur sa sagesse, ni sur celle de ses copains. D'ailleurs, vous vous souvenez, il ne lui donnait pas des conseils terribles. Hein. « Vas-y, il est là, tue-le, profite !» Hein, vous vous souvenez, ses copains, ils étaient... plutôt bagarreur. Lui, il connaît son Dieu par expérience. Il sait que Dieu connaît toutes les facettes d'un problème. Il connaît l'ennemi qui est en face de l'armée d'Israël. Et même si en apparence la situation est la même que la fois précédente, c'est peut-être pas le cas. Il le sent, il le sait, parce qu'il dépend de Dieu. Il sait aussi que Dieu ne reproduit pas mécaniquement les mêmes solutions. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas une machine. Devant l'ennemi, il va souvent avoir des stratégies différentes. Dieu est incroyablement créatif et à chaque bataille, il nous apprend quelque chose de nouveau. Et une bataille n'est pas forcément la même que l'autre, même si elle lui ressemble. Et si vous avez été en face d'un mur dans votre travail et que vous êtes de nouveau en face d'un mur, ce ne sera peut-être pas la même façon. Dieu n'agira pas forcément de la même façon. David sait que dans toutes ces batailles, c'est Dieu qui l'a sauvé. Et ce n'est pas sa stratégie personnelle, ni sa force militaire. Il suffit de relire les psaumes, vous verrez tout de suite. De plus, son cœur est soumis à Dieu. Il est conscient que lui, son peuple, son armée, tous dépendent de la bonté de Dieu exclusivement. Ce petit pays d'Israël n'aurait jamais dû survivre. Il y a des tas de peuples qui ont disparu. Mais 3000 ans après, ils sont toujours là. Et toujours aussi détestés. Et toujours aussi attaqués. Mais ils sont toujours là. Heureusement, Dieu a une stratégie très différente. Heureusement qu'il a demandé à Dieu. Parce que Dieu dit, bah, cette fois, tu sais, tu vas les prendre à revers. Et alors là, le truc incroyable, arrivé donc à un endroit déterminé, tu vas attendre. Oh, attendre devant une bataille. Saül, il n'avait pas résisté. Hein. Moi, j'attends pas, je fonce. Tu vas attendre le bruit de pas dans les arbres. Et là, tu vas te dépêcher. Ah bah alors, moi, j'aurais un petit peu... Attends, on ferait savoir. J'attends le bruit de pas. Et puis après, il faut que je me dépêche. Bon, tu vas te dépêcher d'engager le combat, car Dieu va marcher devant toi. Quelle étrange stratégie militaire. Prendre à revers, ok. Saül l'avait fait, hein. Vous vous souvenez dans l'histoire de Nakash, là, il l'avait fait. Ça avait très bien marché. Mais alors, attendre un bruit de pas dans la cime des arbres, waouh ! Mais contrairement à Saül, David va observer scrupuleusement les paroles de Dieu, sans redouter la réaction de son armée, parce qu'elle expliquait ça à des soldats, hein. Des soldats qui étaient quand même un peu le couteau entre les dents. Hein, c'était pas des anges, hein, et c'était des bagarreurs, c'était des héros de l'armée, hein, des gens très forts et très qui n'avaient peur de rien. On va leur dire d'attendre un bruit dans la cime des arbres. Waouh, s'ils sont écolos, passe encore, mais comment est-ce qu'ils pourraient comprendre ça? Eh bien, je trouve que son armée a été remarquable, elle n'a rien demandé. Elle avait confiance. Et donc, elle devait avoir un respect de Dieu. Et ils n'ont même pas demandé comment. Dieu va marcher devant eux pour battre l'armée des Philistins. Alors, on n'a pas d'autres détails, on ne sait pas comment ils ont fait. Mais David et son armée ont pu les battre et même les poursuivre. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette fois, en plus de l'écoute et de la dépendance de David à Dieu, de son obéissance, on va remarquer son humilité. Quand même, réfléchissez, David est un grand chef de guerre. Depuis l'épisode de Goliath, il a peur de rien. C'est un homme extrêmement courageux. Il connaît la guerre. Avec son ami Jonathan, vous vous souvenez, ils avaient élaboré des petites stratégies bien performantes pour supprimer les postes de Philistins qui empoisonnaient la vie des Israélites. À deux, ils allaient dans des raids absolument incroyables. Et là, il accepte une stratégie complètement originale. Alors, ça ne vous fait pas penser à quelque chose? Moi, ça m'a fait penser quand Jésus est arrivé devant ses disciples. Ils ont dit, on n'a rien péché, on a travaillé toute la nuit. Et Jésus dit, ok, jetez le filet là. De l'autre côté. Non, mais Jésus, écoute, non, on fait de la pêche avec notre père depuis nos 5 ans, hein, 6 ans. Tu ne vas pas nous raconter comment ça se passe. Toi, tu es charpentier quand même. Hein, d'accord, tu es fils de Dieu, mais quand même. C'est notre métier. Si on te dit qu'on n'a rien eu, c'est parce qu'il n'y a rien. Mais les disciples ont quand même accepté d'obéir et ils ont eu une pêche miraculeuse. Et là, c'est pareil. C'est pareil. Et David aurait pu dire, enfin, écoute, d'accord, mais c'est pas toi hein, qui es sur le champ de bataille, là. Et quand même, attendre le bruit des pas dans la cime des mûriers. Bon, il y a des moments où Dieu, en face de certaines situations, même répétitives, va nous demander de le consulter et de ne pas utiliser les mêmes stratégies. Écouter et obéir. On ne peut pas reproduire. Et moi, c'est ce que j'aime dans la vie chrétienne. Ce n'est pas ce que j'appelle le moule à gaufre. Allez, tout le monde sur le même format, tout le monde pareil, toujours la même chose. Oh, vous en savez, ce serait horrible, ça. Non. Avec Dieu, il y a cette variété, il y a cette créativité. Regardez déjà dans les dons, à l'intérieur d'une petite église comme la nôtre, la diversité des dons. La diversité des tempéraments, des caractères, c'est formidable. C'est multicolore. Oh, moi, j'aime ça. Quand même, on n'est pas des hein, fait sur mesure, là, comme les tampons, tout le monde pareil. Alors, pour terminer, je dirais que David, à cette époque de sa vie, il savait qui il était. Ah, est-ce qu'on sait qui on est ? Il connaissait ses limites. Est-ce qu'on connaît ses limites ? Sans se déprimer. Il n'avait aucune présomption. Oh, moi je connais, je vais y aller. Il connaissait son Seigneur. Il avait déjà expérimenté sa protection, son aide, son secours, sa puissance, mais aussi sa patience et sa bonté. J'ai beaucoup aimé le cantique tout à l'heure. Il avait appris à ne pas s'appuyer sur son ressenti. Oh là, celui-là. On dit toujours le sentiment. C'est pas bête parce que c'est vrai. Parfois, notre ressenti peut nous tromper lourdement. Il avait appris à ne pas s'appuyer sur sa peur, ni sur son découragement, ni sur ses forces militaires, ni sur ses belles stratégies, ni même sur le nombre de ses soldats. Pourquoi ça a marché ? Parce qu'il n'a pas cherché à résoudre les problèmes par lui-même. Il sait qui gagne les batailles, en fait. Me les livreras-tu ? Si lui, de son côté, doit aller au combat, ok, il y va, mais il collabore avec Dieu. Et Lamentation, je cite juste ces versets, « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Alors, ça ne veut pas dire « fermez-la hein, », pour être vulgaire. Ça veut dire « ne vous découragez pas, ne prononcez pas des paroles qui vont vous décourager, qui vont vous mettre mal à l'aise, etc. » Gardez le silence. Lamentation 3.26, « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Parce que plus je vais parler, plus je vais me décourager. « Oui, mais t'as vu la taille du problème, tu as vu, et puis un tel, il s'en est pas sorti, puis tel autre, c'est devenu plus grave. » Et plus on va parler du problème qui est en face de nous, il ne s'agit pas de ne pas se confier aux frères et sœurs, attention. Hein. Mais quand on est tout seul, on se parle à soi-même, enfin moi oui en tout cas, et on peut se décourager soi-même. Attendre en silence le secours de l'Éternel. Apprenons à écouter Dieu, à être souple. Vous vous souvenez que dans la Bible, Dieu rouspète toujours sur les gens qui ont le cou raide. Moi, c'est une expression quand j'étais petite que je ne comprenais pas bien. Ça me choquait toujours quand je disais ça, c'est quoi un cou raide ? Et apprenons à ne pas nous appuyer sur notre sagesse, même si elle est efficace. Mais ceci étant, notre sagesse est efficace que quand elle est soumise à Dieu. Que quand elle est soumise à Dieu. Et attendons quand il demande de t'attendre le bruit de pas pour démarrer. Alors c'est quoi ce bruit de pas ? Ah, on aimerait bien savoir. Hein. Moi j'aime énormément ce verset, je ne sais pas pourquoi. Je trouve qu'il a quelque chose d'extraordinaire. Entendre un bruit de pas dans la cime des arbres, c'était quoi ? Alors j'ai regardé d'autres textes qui me font le même effet. 1 Roi 19, 12. Ça fait penser au murmure doux et léger qu'Élie a entendu dans la montagne. Oh, on aurait pu croire que c'était le vent. Mais dans son cœur, Élie savait reconnaître ce petit bruit. On peut penser, bien sûr, au bruit de char de 2 Rois 7. Ça, c'était énorme et ça a fait fuir l'armée. Ou bien au vent de la Pentecôte, qui était puissant. Mais moi, mon préféré reste Genèse 3, 8. Ils entendirent le Seigneur Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. Une oreille non avertie aurait dû se la brise. Mais eux, dans leur cœur, ils entendaient Dieu leur parler. Et vous savez, souvent, Dieu nous parle de cette manière-là. On n'est pas très, très sûr. C'est moi, c'est pas moi. Et puis si on regarde, si on compare avec la parole de Dieu, on dit non, c'était bien le Seigneur. Ils l'ont entendu parce qu'ils parcouraient le jardin avec la brise du soir. Et Dieu continue. Et nous, on a un avantage maintenant. Parce que non seulement on a la Bible, mais on a aussi l'Esprit de Dieu en nous qui nous parle. Et je pense que, enfin ma prière, c'est que dans cette période où on veut vraiment recaler nos vies sur les rails, au travers de ces temps de repentance, c'est qu'on apprenne à écouter. Qu'on apprenne à écouter le bruit de pas de Dieu dans la cime des arbres. Oh, c'était un symbole, bien sûr, mais c'était le signe de la victoire. Et si on commence à écouter ça, si on commence à entendre Dieu nous parler avec la brise du soir, si on commence à l'entendre parler dans notre cœur, les choses vont être tellement plus simples. Ce sera plus facile d'obéir aussi. La manifestation de la présence de Dieu à nos côtés, dans les bons et les mauvais moments, c'est tellement important. Il est là, il veille. Il agit parfois bruyamment, hein, dans les rois, à la Pentecôte, etc. Et parfois discrètement, avec douceur, sans rien de spectaculaire. Mais on pourrait croire que c'est la brise du soir. Mais ça m'a fait penser aux disciples d'Emmaüs. Ils ont écouté cet homme qui leur parlait, qui leur expliquait tout. Et puis, quand ils l'ont vu rompre le pain, « Waouh !» C'était Jésus. Mais c'est vrai que, hein, dis donc, dans notre cœur, on sentait qu'il y avait quelque chose. Ah, j'aimerais retrouver davantage ça dans ma vie. Hein, entendre le bruit des pas de Dieu dans la cime des arbres qui dit « Allez, maintenant, tu peux y aller. » Entendre Dieu me parler avec la brise du soir. Ça devait être formidable, ces conversations avec Dieu. Hein, ça fait envie. Hein. Et je crois qu'on peut retrouver ça en nous remettant bien sur les rails. C'est ça, la repentance. On va se remettre sur les rails. Ah, on a fait un petit peu comme on a pu, et puis tout doucement, voilà, on a pris de la distance sans s'en rendre compte, ce n'était pas volontaire. Mais bon, le résultat est là. Et réécoutons la voix de Dieu qui parle dans le jardin avec la brise du soir. C'est très poétique, mais je pense que vous voyez l'image. Et je crois qu'on en a tous envie.